Jusqu'à 9h30. Jusqu'à 9h30. Vous écoutez Que la Mauricie se lève.
Que la Mauricie se lève.
Catherine le matin. Voici Catherine Gaudreau.
Oui, à 7h50, je vous parlais tout à l'heure de cette annonce d'Air Canada qui met fin à 8 liaisons au Québec, donc des vols régionaux. Certains transporteurs là qui ont décidé de lever la main pour prendre la relève. Il y a des élus qui proposent la création d'un transporteur aérien québécois. C'est un peu le discours de Pascal Bérubé, à qui on va jaser dans une demi-heure. Je voulais savoir ce que Robert en pensait de tout ça. Bonjour, Robert.
Bonjour, Catherine.
Écoute, ben, premièrement,
c'est clair que...
Oui, je m'excuse, je ne vais pas te couper d'emblée. Surpris de cette décision-là ou non, au contraire?
Ben, pas vraiment surpris quand on voit comment l'industrie aérienne se porte présentement. C'est sûr qu'à court terme, c'est une catastrophe pour le développement économique des régions. Mm-hmm. Mais je dirais très rapidement, il y a comme une petite lumière qui s'est allumée dans mon cerveau et je me suis dit, et si c'était une bonne nouvelle? Parce que au fil des ans, il y en a toujours eu des compagnies prêtes à offrir le service de transport aérien en région, mais ouais. Air Canada, avec sa situation de quasi-monopole, les a fait mourir une après l'autre parce qu'ils avaient les moyens d'avoir une grille tarifaire qui module au gré de la compétition. Donc, Air Canada, sur des liaisons régionales, par exemple, était capable de travailler à perte pendant un certain nombre de mois, voire d'années, le temps de faire disparaître le compétiteur, puis après, remonter ses prix et se replacer non seulement en situation de profitabilité, là, mais retrouver sa situation de quasi-monopole. Je me rappelle quand j'étais porte-parole en matière de transport au Québec, avoir voulu déposer une plainte au bureau de la concurrence à Ottawa pour dire, regardez les pratiques d'Air Canada dans le transport régional aérien, là, ça n'a aucun bon sens. Et j'avais fait chou blanc parce que au bureau de la concurrence à Ottawa, on fait pas d'études ou d'enquêtes sur, je dirais, une pratique systémique. Là. Il fallait que je dépose un cas concret d'une personne ayant été lésée dans ses droits pour que là, on fasse une enquête sur cet événement-là très pointu, alors que c'est toute l'organisation qu'il faut voir. Là.
Alors, absolument.
Que Air Canada délaisse là les vols régionaux, c'est sûr qu'il y a un avionneur québécois, probablement, qui va se lever et dire, moi, je suis en moyen d'offrir les services. Il y en a déjà qui ont levé la main. La problématique, c'est comment on va faire pour protéger ces transporteurs-là le jour où Air Canada reprend la business.
Oui, mais alors, le problème, Robert, c'est que ben, deux affaires. Tu sais, c'est qu'un, il faut que tu aies les reins drôlement solides, surtout ces temps-ci. Ça va prendre quelqu'un qui est solide financièrement. Et deuxièmement, les prix ont toujours été astronomiques pour les vols régionaux. Je me souviens, à l'époque, moi, j'ai pris l'avion une fois ou deux Montréal-Bagotville, là, et parce que là, il y avait eu des deals extraordinaires. Ça coûtait plus cher Montréal-Bagotville que Montréal-Paris.
C'est ça, souvent. Il faut en parler à l'ensemble des députés qui partent des régions pour venir vers le Parlement d'Ottawa aussi, c'est une fortune. Ça a toujours été ça parce que Air Canada est en situation de monopole. Mais il y a toujours eu des prix nettement plus abordables quand il y avait une autre compagnie qui essayait de prendre une part de marché, mais qui se faisait bouffer par les capacités financières de Air Canada. Alors, ces compagnies-là qui sont capables d'offrir le service à un juste coût, je dirais, existent encore, vont probablement être hésitantes à se lever pour dire, ben oui, nous, on serait prêts à le faire, mais offrez-nous des garanties, là, parce que ça va représenter un certain nombre d'investissements et on veut pas que le jour où Air Canada retrouve sa santé, on se fasse avaler, comme ça a été le cas de très nombreuses reprises et pour de très nombreuses compagnies dans le passé. Alors là, il y a vraiment, en même temps, une réflexion collective à faire en disant, qu'est-ce qu'on fait avec le transport régional aérien? Est-ce que ça va passer par une subvention du coût du billet? Est-ce que ça va passer par une capacité de Ottawa, ce qui est de plus en plus difficile parce que Air Canada est une compagnie privée maintenant, mais de limiter le coût de la facturation d'Air Canada? Mais tout ça, ça finit par dire que d'une façon ou d'une autre, c'est toujours le citoyen qui finit par financer une portion du service.
Ouais,
mais
absolument.
Le service peut être offert par quelqu'un d'autre qu'Air Canada. Ça, la démonstration a été faite à de multiples reprises. Il faut juste trouver le moyen de bloquer les actions anticoncurrentielles d'Air Canada quand il est au fait de sa profitabilité.
Robert, ce matin, il faut parler d'un dossier sur la scène internationale. Bon, pas une grande surprise. Les électeurs russes qui ont voté en faveur des amendements constitutionnels qui permettent à Vladimir Poutine de briguer deux nouveaux mandats. Ce qui fait, en bout de ligne, là, parce que l'enjeu, c'était... lui, il voudrait rester au pouvoir, s'il le souhaite, bien sûr, jusqu'en quoi? 2036, c'est ça?
Oui, exact. Alors, okay. Deux autres mandats, et ça, si on en parle ce matin, évidemment, c'est pas parce qu'on voit là la fin d'un suspense que tout le monde attendait.
Non, non, non.
Ça a été connu avant même d'être connu, mais Poutine est un personnage absolument fascinant sur la scène internationale, et il a cette capacité de toujours pousser la limite un peu plus loin, je dirais, sans provoquer la colère de la communauté internationale.
C'est vrai.
Il y a bien des gens qui rouspètent un peu à gauche et à droite, mais on fait rien. Et dans ce cas-ci, tu l'as bien dit dans ton introduction, on focus beaucoup sur le fait de prolonger. En fait, ce qu'il fait, c'est pas je veux être président à vie, là. Il est plus subtil que ça. Il fait, dans mon cas, on va remettre les compteurs à zéro. Alors, vous allez me permettre de faire deux autres mandats. Ce qui le mène effectivement à 2036. Puis j'ai fait une petite recherche hier que je trouvais intéressante. Je suis allé sur le dernier rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour voir c'est quoi l'espérance de vie en Russie. Alors, Poutine a aujourd'hui 67 ans, aurait en 2036 83 ans, si mon calcul est exact. Et l'espérance de vie en Russie pour un homme, c'est 64 ans. 1,7, là. Ouais.
Hey, mon Dieu, okay, c'est pas beaucoup.
Bon, vous me direz que Vladimir Poutine a probablement des conditions de vie qui sont un peu au-delà de la moyenne des citoyens russes, là.
Clairement.
Mais en même temps, statistiquement, il vient de se donner les moyens d'être président à vie. C'est assez clair. Et
Absolument.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que si en Occident, on a beaucoup focusé sur ces deux mandats-là, au référendum, il y avait 46 modifications constitutionnelles. C'est hallucinant. J'aurais beaucoup voulu voir la question référendaire. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. J'aurais peut-être trouvé dans un quotidien russe, mais mon russe est vraiment, vraiment très, très, très préliminaire. Alors, je n'aurais probablement pas compris non plus. Mais dans ces changements-là, il y a des choses qui feraient probablement rêver même un Donald Trump. Et entre autres, il a la possibilité maintenant, par ses modifications constitutionnelles, de nommer les juges de la Cour suprême, ce qu'à peu près tous les dirigeants ont, Donald Trump, Justin Trudeau aussi, mais il a aussi le pouvoir de les limoger. C'est assez extraordinaire.
C'est incroyable.
Et là, on vient de faire une entorse extraordinaire à la séparation des pouvoirs.
Absolument.
Alors, ceux qui se questionnent encore à savoir si vraiment Poutine va utiliser les deux mandats qu'il vient d'obtenir, c'est assez clair. Et pour faire plaisir à tout le monde, ben, on inclut dans ces 46 modifications des choses absolument extraordinaires, comme on a établi la foi en Dieu comme valeur fondamentale de la nation russe. Beau changement. On a également protégé la vérité historique. Là, fouille-moi ce que ça veut dire, ça.
Ouais, c'est ça.
J'ai
okay.
beaucoup de difficultés à définir ça. On a indexé les retraites, ce qui avait été un cas d'opposition, si on peut dire ça ainsi, dans les derniers mois, dernières années. On a défini la famille comme une institution hétérosexuelle.
Ouf.
Alors, quand on vient dire qu'on vient d'interdire l'homosexualité en Russie, il a été plus subtil que ça. Il a dit non, la famille, c'est une institution hétérosexuelle. C'est absolument incroyable. Et la COVID a eu le dos large en temps de référendum parce que, entre autres, on a simplifié la procédure référendaire prévue à la Constitution parce que c'était trop compliqué. On a eu donc un référendum sans débat.
Ben oui.
Ça, c'est extraordinaire quand même. Mais c'est sûr que c'était pas de parti d'opposition, difficile d'avoir un débat. Il y avait quand même des opposants dans la société civile, mais qui n'avaient pas vraiment les moyens ou des moyens équivalents de faire entendre leur voix. C'est absolument incroyable.
Ben en fait, Robert, il s'est complètement fabriqué ils se sont fabriqués un résultat sur mesure avec ça. En faisant passer ça sur le dos de la COVID, mais c'était pas ça pantoute, là. C'est exactement ce qu'ils voulaient.
On a modifié les bureaux de scrutin. On a eu des bureaux de scrutin tout à fait hors normes, là, faites dans une valise de char au coin de la rue parce que
ça donne.
Et on imagine, on a eu une semaine pour aller voter. Mon premier réflexe, c'est de dire, OK, c'est peut-être respectueux en temps de COVID, mais en même temps, dans une élection standard au Canada ou au Québec, là, Ouais. Les partis reçoivent à chaque heure ce qu'on appelle la feuille de bingo, c'est-à-dire les numéros de tous les citoyens qui sont allés voter, ce qui te permet de faire des téléphones à tes sympathisants, de dire « Vous n'êtes pas allé voter encore, est-ce que vous croyez y aller? Avez-vous besoin d'un transport? » Là, ils ont eu une semaine pour savoir qui était allé voter et qui n'était pas allé.
Là-bas, t'es mieux d'y aller.
Quelques pressions.
À peine. Mais ce que j'ai aimé, Robert, pour terminer là-dessus, j'entendais les différents reportages, la commission électorale n'a constaté aucune infraction sérieuse pendant le scrutin. Rassure-toi, Robert.
La question que je me suis demandé, c'est où étaient les observateurs internationaux?
Je ne sais pas. Hey, Robert.
D'après moi, chez eux.
Probablement. Je te souhaite une belle fin de semaine. On se reparle mardi prochain.
Toi aussi, au plaisir. Bye-bye.
Salut, bye-bye. Robert Aubin, les mardis, jeudi, 7h50.